VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Au micro, Salwa Jafari et Nicolas Pinault. Voici les titres.
Retour au calme au Burundi, un calme précaire. Les manifestants anti-Nkurunziza continuent de se heurter aux forces de police.
La France.
Ils ont atteint leur objectif ou pas. Ce que je sais, c'est que tout simplement, ils appelaient. Au départ, ils nous disaient qu'ils allaient transformer le Burundi en Burkina Faso. On ne l'a pas vu.
La France diminue encore les effectifs de la force Sangaris. Il ne restera que 900 militaires français en Centrafrique d'ici la fin du mois.
Les Nations Unies s'inquiètent du sort des réfugiés maliens en Mauritanie.
On rentre dans la période de la soudure. Il n'y aura pas suffisamment de vivres à distribuer alors que c'est le moment de besoin le plus aigu au cours de l'année.
L'Iran et le groupe du 5+1 de nouveau autour de la table des négociations à Vienne.
Restez avec nous pour nos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports, mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Au Burundi, calme relatif ce jeudi alors que la police burundaise a presque réussi à étouffer quasiment toute manifestation hostile au président Pierre Nkurunziza dans les quartiers de Bujumbura. Des manifestants tentaient de se rassembler dans les quartiers de Ngara et Sibitoke, mais ils ont été immédiatement dispersés par les tirs de la police.
En Centrafrique, l'armée française annonce le retrait progressif de la force Sangaris. Les effectifs de l'opération militaire seront revus à la baisse d'ici la fin du mois de juin. Rappelez-vous, Sangaris avait été déclenché en 2013 sous mandat de l'ONU pour stabiliser la situation dans le pays. Alors en proie au chaos, Félix Yepassis Zembro nous en dit plus.
En effet, le contingent de Sangaris passera de 1700 à 900 soldats fin juin. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'armée française, le colonel Gilles Jarron. Ce retrait, a-t-il souligné, s'inscrit dans un processus de désengagement amorcé il y a plusieurs mois. Rappelons que le président François Hollande, en recevant la chef de la transition Catherine Samba-Panza le 27 mai dernier à l'Élysée, a salué le déploiement effectif des forces des Nations Unies qui allait permettre la diminution progressive des troupes françaises. L'opération Sangaris a été déclenchée en 2013 sous mandat de l'ONU pour stabiliser le pays en proie à un cycle de violence intercommunautaire opposant les milices anti-Balaka à l'ex-coalition Séléka de Michel Dotodia au lendemain du renversement du président François Bozizé. Signalons que la présence de Sangaris en Centrafrique a été entachée par des accusations de viol commis sur des enfants par des soldats français entre fin 2013 et début 2014. Paris et l'ONU ont demandé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire dans laquelle 14 soldats ont été mis en cause.
Au Kenya, 5 suspects dans l'attaque contre l'université de Garissa ont été mis en examen jeudi devant un tribunal de Nairobi pour actes terroristes. Cette attaque revendiquée par les Shabab somaliens avait fait 148 morts en avril dernier. Les suspects ont été renvoyés en détention jusqu'à jeudi prochain. Ils nient les accusations et affirment avoir été torturés lors de leur détention.
Et puis ce chiffre révélé par l'ONU, environ 1500 enfants ont été kidnappés depuis fin 2014 au Cameroun par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram qui les emploie pour des menus travaux ou comme combattants.
Près d'une centaine de personnes au moins sont mortes à Accra dans l'explosion d'une station-service. De nombreuses victimes étaient venues s'abriter alors que les pluies torrentielles se sont abattues hier soir sur la capitale ghanéenne. Edith Nsango.
Les autorités ont confirmé l'accident jeudi à Accra. La cause reste inconnue. L'explosion a provoqué un incendie qui s'est propagé sur des bâtiments à proximité du cercle Kwame Nkrumah dans les centres de la capitale ghanéenne. Elle a eu lieu alors que de nombreuses personnes étaient rassemblées à la station de carburant pour échapper aux inondations. Les hôpitaux locaux ont pris autant de corps et de blessés qu'ils n'en pouvaient accueillir. La recherche d'autres victimes s'est poursuivie. Le nombre de morts est susceptible d'augmenter. Les inondations ont entravé les opérations de secours. Le président John Mahama s'est rendu sur les sites ainsi que le maire d'Accra et un membre du Parlement, M. Mahama, a déclaré aux journalistes que cette lourde perte en vie humaine et catastrophique et a promis qu'un tel incident ne se répétera pas.
Les élections présidentielles et législatives au Niger seront transparentes en 2016. C'est ce qu'assure le président Mahamadou Issoufou alors que l'opposition accuse la Cour constitutionnelle qui valide les candidatures d'avoir fait allégeance au pouvoir en place. Le recensement des électeurs va durer 3 semaines dans le pays. En 2011, lors de la dernière élection présidentielle, près de 6,7 millions d'électeurs étaient inscrits alors que la population du Niger est estimée à 17 millions d'habitants.
Mahamadou Issoufou qui a rencontré hier son homologue nigérian Hamadou Bouhari. Ce dernier a rendu visite ce jeudi à N'Djamena Idriss Déby, puisque le Tchad participe à la force régionale qui lutte contre Boko Haram. On écoute Moussa Faki, le ministre des Affaires étrangères.
Les deux chefs d'État ont fermement condamné les actes terroristes et inhumains commis sur les populations civiles nigérianes et celles des pays voisins par des éléments de Boko Haram. Ils ont relevé qu'au nombre de conséquences de l'insécurité ainsi créée figurent les pertes en vies humaines, la destruction des biens et le déplacement des populations dans la région du bassin du lac Tchad. Les deux chefs d'État ont clairement exprimé leur volonté et engagement de collaborer à tous les niveaux pour rendre plus efficace le combat commun qu'ils mènent contre la secte Boko Haram et de ramener ainsi la paix et la sécurité indispensables au développement de la région. Le président Muhammadu Buhari a exprimé à son frère et ami le président Idriss Déby Itno sa reconnaissance pour le rôle déterminant joué par son pays dans l'affaiblissement de cette secte, saluer la mémoire des valeureux soldats tchadiens tombés sur le champ d'honneur et présenter ses condoléances à leur famille.
C'était Moussa Faki au micro de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Le procès d'officier ivoirien jugé pour des exactions durant la crise post-électorale 2010-2011 a été reporté dès son ouverture aujourd'hui. Report à la semaine prochaine. Bagassikoura.
Oui, les commandants Jean-Noël Abeye, Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka et sept autres officiers sont traduits devant le tribunal militaire dans le cadre d'exactions commises durant la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Selon l'AFP, le commandant Yapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo, est accusé d'assassinat, meurtre, blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes, recrutement de mercenaires, entretien de milices. Cet officier fut un des hommes les plus craints de Côte d'Ivoire, décrit par ses détracteurs comme l'un des chefs des escadrons de la mort et en sévit sous l'ancien président. Le commandant Abeye, lui, dirigeait le plus grand camp de gendarmerie du pays basé à Abidjan. Il répond des chefs de désertion à l'étranger et complot selon le parquet militaire. Le tribunal a renvoyé la procédure à mardi prochain pour permettre à tout le monde d'être en état, a annoncé le juge Tahirou Dembélé. Deux des sept accusés appelés à la barre ne bénéficiant pas de défenseurs.
8 personnes ont comparu aujourd'hui devant un tribunal du sud de la Tanzanie pour avoir coupé la main d'une femme albinos. La victime de 30 ans, mère de 4 ans, enfant, a été attaquée en mai et continue à être traitée à l'hôpital, a révélé le procureur Ongera Fimbo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président américain Barack Obama rencontrera en tête-à-tête le premier ministre irakien Haider al-Abadi en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7. Il aura lieu dimanche et lundi en Allemagne.
Réunis à Alger, les responsables libyens ont appelé aujourd'hui à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement d'union nationale en Libye, où deux parlements et gouvernements ennemis se disputent le pouvoir. Ils appellent les partis concernés à faire des concessions pour parvenir à un accord politique global et équilibré, consensuel. Les pourparlers qui rassemblaient 27 représentants de différentes factions ont duré 2 jours en présence du médiateur de l'ONU.
Au Proche-Orient, ces nouvelles frappes israéliennes sur des cibles militaires dans la bande de Gaza. Tôt ce matin, l'offensive n'a pas fait de victimes. Tel Aviv dit agir en représailles à de nouveaux tirs de roquettes palestiniennes revendiqués par les partisans de l'État islamique à Jérusalem, un groupe récemment apparu à Gaza.
En Syrie, le groupe État islamique poursuit sa progression. Les djihadistes étaient aujourd'hui aux portes de Hasakeh, au nord-est de la Syrie, malgré la poursuite des raids de la coalition internationale qui ont fait 10 000 morts parmi les djihadistes. Et puis non loin de là, en Irak, une frappe de la coalition menée par Washington a détruit l'un des plus importants sites de fabrication de voitures piégées du groupe terroriste, arme de prédilection de l'organisation extrémiste.
L'Union européenne et les États-Unis ont dénoncé ce matin l'escalade des combats la veille dans l'est de l'Ukraine, estimant qu'il s'agit de la plus grave violation du cessez-le-feu instauré en février, qui risque d'enclencher une nouvelle spirale de la violence. Fin de citation. De violents combats ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à l'ouest de Donetsk. Ces affrontements ont fait 24 victimes en 24 heures, selon des bilans des autorités ukrainiennes. Yémen et des séparatistes.
La liste des candidats à la présidence aux États-Unis continue à s'allonger. Cette fois-ci, c'est un habitué de la course qui vient d'annoncer son intention de retenter sa chance. Le conservateur Rick Perry, ancien gouverneur du Texas, à 65 ans, Perry avait abandonné sa compagne en cours de route en 2012, suite notamment à plusieurs bavures durant les débats télévisés. Perry est le 10e candidat républicain à se joindre à la course.
Ainsi s'achève ce journal sur VOA Afrique. C'est l'heure de la Minute Éco, présentée ce soir par Idrissa Seydoudia.
Le Fonds monétaire international recommande aux autorités de Kinshasa d'exploiter le vaste potentiel fiscal pour accroître les recettes intérieures de la République démocratique du Congo afin de dégager des marges budgétaires à l'approche des élections coûteuses, selon un communiqué reçu jeudi par l'AFP. Le coût de tous ces scrutins a été chiffré à 1,1 milliard de dollars, alors que le budget de l'État s'élève à 9 milliards de dollars pour 2015. Madagascar n'atteindra pas le rebond de croissance prévu cette année, compliquant la donne pour le président malgache, déjà privé de majorité parlementaire et confronté à un vote de destitution, selon une note publiée jeudi par le Fonds monétaire international. Taïwan s'est engagé à accompagner la recherche agricole burkinabé en renforçant le programme national de recherche agricole et le développement des variétés améliorées, a appris l'agence APA auprès du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
C'était la Minute Éco, présentée par Idrissa Seydoudia. Place au sport à présent. Dans cette émission, nous retrouvons Timothée Donormaille. Bonsoir Timothée.
Et oui Nico, ce jeudi, l'Allemagne et le Brésil ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
Alors Timothée, on parle football, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est en Nouvelle-Zélande.
Si la National Mannschaft a aisément disposé de l'Ouzbékistan 3-0 à Christchurch, le Brésil a connu davantage de difficultés pour se défaire de la Hongrie 2-1. La grosse surprise de la journée est à mettre au crédit des Fidji, vainqueurs 3-0 du Honduras. Les Océaniens ont obtenu avec panache leur premier succès dans une compétition FIFA. Les insulaires ont fêté cet événement historique dans l'euphorie. Ils vont cependant devoir rapidement se reconcentrer car la troisième et dernière journée pourrait même leur donner l'occasion d'accéder aux huitièmes de finale. Enfin, le Nigeria a largement dominé la Corée du Nord dans le groupe E 4-0. Les Asiatiques attendent donc toujours leur premier succès en Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Football cette fois, sur le plan judiciaire, le scandale de la FIFA et de nouvelles révélations.
Chuck Blazer, ancien haut dirigeant de la FIFA, a reconnu le versement de pots de vin du Maroc et de l'Afrique du Sud lors des processus d'attribution des mondiaux 1998 et 2010. Nouvel épisode d'un feuilleton déjà riche de la démission de Joseph Blatter, désormais dans le viseur de la justice américaine. La justice américaine qui soupçonne aussi le Trinidadien Jack Warner, alors président de la CONCACAF, d'avoir empoché 10 millions de dollars en échange de 3 voix en faveur de l'Afrique du Sud lors du vote pour l'attribution du Mondial 2010. Ce même Warner affirme aujourd'hui détenir des documents prouvant l'implication de la FIFA dans les élections législatives 2010 à Trinité et Tobago, son pays.
On part à Paris, le tournoi de tennis du Grand Chelem, Roland-Garros.
Place aux demi-finales dames ce jeudi, la Tchèque Lucie Safarova a réalisé un rêve à 28 ans en se qualifiant pour la première fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem après son succès contre la Serbe Ana Ivanovic. Victoire poussive 7-5, 7-5 en 1h et 52 minutes dans un match où la crispation a pris le pas sur la qualité de jeu. Serena Williams a défait la Suissesse Baczynski en 3-7 après avoir concédé le premier 4-6, 6-3 et 6-0. À suivre demain chez les hommes, Joe Wilfried Tsonga contre Stan Wawrinka et Novak Djokovic contre Andy Murray.
Et enfin Timothée, la grande finale NBA, c'est la nuit prochaine.
Pour la première fois de son histoire, Cleveland peut inscrire son nom au palmarès NBA à partir de jeudi, mais Golden State, qui a attendu 40 ans pour disputer une nouvelle finale, a une autre idée en tête.
Merci beaucoup, c'était Timothée Donormaille pour le Journal des Sports.
Merci Nico et Timothée, restez avec nous, vous êtes toujours en compagnie de VO Afrique, le monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission Salois.
Au Burundi, les élections législatives et locales déjà reportées une fois n'auront donc pas lieu ce vendredi. Conformément aux recommandations des chefs d'État de la sous-région, un report de 6 semaines jusqu'à la mi-juillet est plus que probable. Si la pression de la rue semble étouffée au Burundi, au-delà des frontières, la communauté internationale, européens et américains en tête, ne désespère pas de faire renoncer le président Nkurunziza en quête d'un troisième mandat. Pression inutile, comme nous l'explique le ministre burundais des Affaires étrangères, Nicolas Pineau, adjoint Alain Niamitoué.
Les relations internationales, en tout cas dans la gestion des affaires africaines, c'est surtout les communautés économiques régionales qui prennent généralement l'initiative et qui sont, je dirais, au devant dans la résolution de ces problèmes. Et ce qui s'est fait dans le passé, qui se fait d'ailleurs dans d'autres régions, pour d'autres pays, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La communauté des États de l'Afrique de l'Est a pris la question en main et est sortie avec une série de recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre. Maintenant, il appartient à chaque parti au Burundi de mettre en œuvre de bonne foi les recommandations qui ont été émises par les chefs d'État. C'est ainsi qu'on pourra s'en sortir.
On connaît aujourd'hui la position des chefs d'État de la sous-région. Que dites-vous aux Européens et aux Américains qui continuent de contester l'idée d'un troisième mandat de Pierre Nkurunziza? Parlez-vous d'ingérence?
Je ne serai pas si direct, mais je pourrais simplement dire que s'ils veulent que les choses aille de l'avant, il faut donner des chances à cette initiative régionale, c'est clair.
Est-ce que selon vous, la question du troisième mandat ou non de Pierre Nkurunziza est désormais derrière vous?
Bon, comme quelqu'un qui a participé au sommet, je ne vois pas vraiment que ce soit une question qui devrait être sur la table. C'est vrai que certains voudraient faire un peu plus devant autour de la question, mais en ce qui me concerne, il me semble bien que les chefs d'État ont dit qu'il y avait deux options. L'option 1 qui disait que la candidature devait être retirée, cette option n'a pas été retenue. Et celle qui disait que la candidature devrait être maintenue, cette option a été maintenue. Donc je pense que pour moi, les choses sont très claires. Maintenant, il y a une série de conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse parler des élections, je dirais, inclusives et transparentes. Et c'est dans le cadre du dialogue qu'on va régler toutes ces questions, notamment aussi durant cette période de report, la participation, l'engagement actif de la région pour aider toutes les parties prenantes burundaises à régler toute question qui serait pas encore résolue jusqu'ici. Mais en tout cas, celle-là ne me semble pas être en tête de liste.
Vous avez le sentiment que la crise est passée ou que le Burundi est toujours isolé sur la scène internationale?
Isolé, je n'irai pas jusque-là. Mais maintenant, la question devrait être posée aux gens qui ont appelé aux manifestations pour faire le bilan, pour savoir si véritablement ils ont atteint leur objectif ou pas. Ce que je sais, c'est que tout simplement, ils appelaient. Au départ, ils nous disaient qu'ils allaient transformer le Burundi en Burkina Faso. On ne l'a pas vu.
Alain Niamitoué, ministre burundais des Affaires étrangères, joint à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au Sénégal, l'affaire Tchonsek, du nom du célèbre chanteur chez qui les policiers ont découvert en milliards de francs CFA de faux billets en euros et en dollars. La star étant en prison depuis mardi, le tribunal de Dakar l'accuse entre autres d'association de malfaiteurs et de falsification de contrefaçons. Pour en savoir plus, Idrissa Seydoudia a contacté à Dakar Mamadou Mandia, directeur du journal Le Témoin et de la station Top FM.
Il faut dire que Tchonsek, c'est l'un des plus grands chanteurs du Sénégal de ces 20 dernières années. C'est une star adulée au même titre que Youssou N'Dour, dont il est d'ailleurs un grand rival. Et donc, il y a une dizaine de jours, le mercredi 27 mai plus exactement, il a été interpellé par une unité d'élite de la gendarmerie nationale qui s'appelle la section de recherche, qui a fait irruption dans son domicile et il a découvert donc de l'argent, de la fausse monnaie pour une valeur de 42 milliards de francs CFA en devises étrangères, c'est-à-dire en dollars et en euros. Et il a été donc interpellé avec un Malien du nom de Alaï Djitéi, tandis qu'un troisième complice présumé, un Gambien du nom de Cissé, réussissait à prendre la fuite. Alors, au cours de leur perquisition, donc, les gendarmes ont également découvert au domicile du Malien une quantité impressionnante de billets, de banque également, de fausses coupures en euros, en dollars, et également du matériel présumé ayant servi à reproduire cette fausse monnaie. Bon. Et l'affaire défrait d'autant plus la chronique que vraiment les montants en jeu sont colossaux, puisqu'on fait état d'au moins 42 milliards de francs CFA, presque 50 milliards de francs CFA. Et donc, depuis lors, effectivement, c'est l'affaire qui tient la une des journaux, des radios, des télévisions, tout le monde en parle.
Alors, Mamadou Oumar, comment est-ce que John Seck justifie la présence de cet argent chez lui?
Il a raconté aux enquêteurs une histoire à dormir debout, puisqu'il a dit que cet argent lui a été remis par des Gambiens parce que, comme devant représenter les cachets d'une tournée internationale qu'il devait donc effectuer pour le compte de ses promoteurs, de ses soi-disant promoteurs gambiens, qui lui auraient donc payé tout cet argent pour servir de cachet aux prestations qu'il devait effectuer pour eux. Bien entendu, cette version n'a pas emporté l'adhésion des gendarmes, qui n'ont guère été convaincus et qui lui ont demandé de produire le contrat qu'il aurait signé avec ses promoteurs gambiens. Il a été dans l'incapacité de produire le moindre contrat, et pour cause.
Mamadou Mandiaye, notre confrère sénégalais, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Mauritanie, le PAM et le HCR tirent la sonnette d'alarme. Ils ne disposent plus du financement nécessaire pour venir en aide aux réfugiés maliens du camp de Mbera. Ce camp qui accueille 50 000 réfugiés a été ouvert en 2012 suite au conflit du nord du Mali. Claire Morin-Gibourg a rejoint Bruno Guédo, représentant du HCR en Mauritanie.
Effectivement, nous avons tiré la sonnette d'alarme parce que nous voyons que l'attention des bailleurs, l'attention de la communauté internationale s'estompe au fur et à mesure que cette crise malienne se prolonge et surtout que la présence des réfugiés au camp de Mbera devient une présence prolongée dans le temps. On vient de rentrer dans la quatrième année, je pense, de cette crise. Il nous faut garder la garde haute pour deux raisons. Une, parce que la situation est loin d'être stabilisée au Mali et que nous venons encore dans les dernières trois semaines de recevoir 300 nouveaux arrivants du fait de l'insécurité croissante sur le terrain. Et deux, parce que le fait d'avoir atteint les standards minimums humanitaires, de traitement humanitaire de ces réfugiés, atteint à peine d'ailleurs et après tant d'efforts, ne signifie pas que nous pourrions dormir sur les lauriers. Si on baisse la garde, on pourrait retomber encore en dessous. Et je parle en dessous de ce standard minimal.
Quelle est la situation au camp de Mbera actuellement, la situation humanitaire?
Il y a 50 000 réfugiés qui se trouvent dans un état minimal d'assistance, qui se trouve dans une situation de pauvreté à 74% des résidents du camp. Ils sont considérés comme pauvres ou extrêmement pauvres, qui ne peuvent pas encore rentrer au pays et qui risquent de rester assez longtemps en Mauritanie. La nutrition, c'est une inquiétude très importante parce qu'il y a eu une sécheresse prolongée l'année passée, il y a eu très peu de pluie. On rentre dans la période de la soudure, c'est-à-dire que c'est la période des vaches maigres. Les récoltes sont finies, les escortes de nourriture sont finies, les nouvelles récoltes ne sont pas encore arrivées. C'est les trois mois clés, juillet, août et septembre. Traditionnellement, dans les hautes charges en Mauritanie, toutes les populations dans la soudure tombent dans un état de malnutrition chronique. Et le risque est que cette situation puisse se répandre aussi aux réfugiés parce qu'il n'y aura pas suffisamment de vivres à distribuer alors que c'est le moment le plus aigu, de besoin le plus aigu au cours de l'année.
Bruno Guédo, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en Mauritanie.
Retour sur l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria, alors qu'il a rencontré cette semaine ses homologues du Niger et du Tchad, pays avec lesquels il lutte contre Boko Haram. Selon les analystes, l'investiture du président donne aussi aux États-Unis et au Nigeria une chance de repartir sur de nouvelles bases, après des relations plutôt tendues avec son prédécesseur Goodluck Jonathan. Les précisions de Lionel Gaïma.
Dans une vidéo publiée en ligne cette semaine, on a vu des combattants de Boko Haram arborant apparemment le logo de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Rien que de mensonges, affirme ce militant qui demande que les pays combattant son groupe aient eu de gros succès dans leur tentative de neutraliser Boko Haram. Cette vidéo a été publiée quelques jours seulement avant l'investiture du président Muhammadu Buhari, qui s'est juré de faire de la lutte contre le groupe islamiste nigérien sa priorité des priorités. Et l'ancien général a discuté de cette question avec le secrétaire d'État américain John Kerry, qui était présent à sa prestation de serment. Pour Jay Peterfam de l'Atlantic Council, il est important que Washington ne permette pas le pourrissement de la situation qui prévalait sous le précédent régime nigérien. Je m'attends à ce que les États-Unis agissent rapidement et envoient des conseillers pour aider le Nigeria, par exemple dans les domaines du renseignement et de la logistique. Le politologue américain rappelle que le Nigeria n'est pas un pays pauvre, malgré ses problèmes économiques actuels. Il ne veut pas de charité, mais aimerait avoir la possibilité d'acheter lui-même assez d'équipements et autres pour relever ses défis. Pour sa part, l'analyste Mohamed Rahim s'est exprimé sur la question au programme Africa 54 de la VOA. Monsieur Rahim insiste sur l'assistance technique et explique que les États-Unis et les autres puissances mondiales devraient se concentrer sur l'aide aux communautés frappées de plein fouet par les attaques et les enlèvements de Boko Haram. Au département d'État américain, un haut responsable a déclaré lors d'un briefing que les États-Unis espèrent faire plus pour aider le Nigeria à combattre Boko Haram, y compris l'entraînement d'un bataillon cette année.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, African Music. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'avoir l'artiste Desmond.
Salut, ici c'est Desmond. Retrouvez-moi ce jeudi à 20h temps universel dans RM Show de VOA Afrique avec Roger Moutou.
Vous l'avez très bien entendu, l'artiste rwando-burundais Desma sera notre invité dans RM Show ce soir. Vos questions sur notre groupe Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-9285. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Le rappel des titres au Burundi, calme relatif ce jeudi alors que la police burundaise a presque réussi à étouffer quasiment toute manifestation hostile au président Pierre Nkurunziza dans les quartiers de Bujumbura.
La France diminue encore les effectifs de la force Sangaris. Il ne restera que 900 militaires français en Centrafrique d'ici la fin du mois.
Au Kenya, 5 suspects dans l'attaque contre l'université de Garissa ont été mis en examen devant un tribunal de Nairobi pour acte de terrorisme. Cet acte revendiqué par les Shabab somaliens avait fait 148 morts en avril dernier.
Près d'une centaine de personnes au moins sont mortes à Accra dans l'explosion d'une station-service.
Les élections présidentielles et législatives au Niger seront transparentes en 2016. C'est ce qu'assure le président Mahamadou Issoufou, alors que l'opposition accuse la Cour constitutionnelle qui valide les candidatures d'avoir fait allégeance au pouvoir.
8 personnes ont comparu aujourd'hui devant un tribunal du sud de la Tanzanie pour avoir coupé la main d'une femme albinos.
Et puis le procès d'officiers ivoiriens jugés pour des exactions durant la crise post-électorale 2010-2011 a été reporté dès son ouverture et ce jusqu'à la semaine prochaine.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde est assurée par Lionel Gaïma, Nicolas Pinault et Saloua Jafari à la présentation.
Excellente soirée à tous. Retrouvez-nous sur Facebook et voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.